arrêter mes fonctions universitaires. Il reste juste une étudiante de doctorat qui est en train de terminer sa thèse. Elle devrait la déposer d'ici l'été, et puis ce sera fini. Et puis voilà, voilà.
Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es spécialisé plus pour les enfants que pour les adultes en général?
Mais c'est toujours quelque chose qui, moi, m'a interpellé de par ma propre histoire, de voir parfois à quel point il y avait un décalage entre la compréhension de l'adulte et ce que moi, je vivais comme enfant. J'ai grandi dans une famille qui était plutôt dysfonctionnelle. Et s'il y a quelque chose qui m'a aidé à passer à travers ça, c'est une certaine forme de lucidité. Et c'est cette lucidité-là, en fait, en même temps, j'essaie de comprendre. Puis j'ai très rapidement, dans mon adolescence, commencé à travailler avec des jeunes, et surtout des jeunes qui avaient des passés ou des vies qui étaient parfois compliquées, et parfois des jeunes dont on ne voulait rien savoir. Et puis moi, ils me mangeaient dans la main, simplement parce que j'avais une approche différente. Puis le hasard a fait en sorte que j'ai fait mes études en pédagogie. J'ai donc travaillé avec des enfants dans des écoles, puis j'allais travailler avec des enfants qui étaient porteurs de multiples handicaps, et ainsi de suite. Donc progressivement, je me suis intéressé de plus en plus aux neurosciences pour essayer de comprendre les jeunes avec lesquels je travaillais. Et de fil en aiguille, ben, ça m'a un, amené au Québec, deux, amené à faire un doctorat en neurosciences à la Fac de médecine de l'Université de Montréal, et trois, ben, de choisir entre une carrière traditionnelle à l'université ou une carrière hybride. Et moi, je suis quelqu'un de projet, donc dès que je tombe dans une routine, j'ai de la difficulté à vivre mes journées. J'ai besoin que les choses changent, j'ai plus une nature entrepreneuriale qu'une nature, comment dire, d'employé. Puis il faut de très bons employés, mais j'aurais probablement mal fité dans un cadre d'employé.
Ouais. J'aime ça t'entendre. Puis, on dirait que dans notre société, on a tendance à oublier nos enfants puis nos personnes aînées. Tu sais, c'est souvent les deux oubliés. Là, la société, on dirait qu'on se concentre là, sur le 18-65, puis après ça, ben on se concentre plus sur ces gens-là. Moi, de voir qu'il y a des gens comme toi qui continuent à travailler avec les enfants, puis de l'autre côté, des gens qui continuent à travailler avec nos aînés, ça me rassure un peu. Joël, aux États-Unis, sont quoi? Sont 330 millions. Au Canada, on va atteindre justement la barre des 40 millions de population. On est considéré comme étant un pays riche. Qu'est-ce qui fait que je vois encore des articles passer dans l'actualité comme quoi il y a des enfants qui se présentent à l'école et ces enfants-là ont des fois pas déjeuné et des fois pas soupé la veille et pas déjeuné? Ça n'a pas de bon sens qu'on soit encore pris là-dedans. Je trouve ça ignoble. Puis en même temps, pour ces enfants-là, qu'est-ce que ça a comme impact d'arriver à l'école le ventre vide? Au niveau de l'éducation, là, ça doit être assez difficile de se concentrer quand on a notre estomac crie famine.
Oui, tout à fait. Et puis, tu posais la question initialement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a encore des enfants qui aujourd'hui ont des difficultés à manger avant de partir à l'école? Je crois qu'il y a des grandes disparités. Il y a des gens qui gagnent très, très bien leur vie, et il y a des gens qui gagnent beaucoup moins bien leur vie et qui, eux, sont aux prises à devoir choisir parfois entre un litre de lait qui peut peut-être coûter 3 ou 4 dollars et une bouteille de Coke qui va en coûter 1,50. Et je peux comprendre que parfois, le parent va choisir le Coke parce que c'est plus joyeux dans la maison de mettre du Coke avec du sucre que de mettre éventuellement lait. Et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je suis en train de nommer actuellement. Mmh. C'est que, là, quelque part, le parent veut aider, puis peut-être que le lait, c'est anormal qu'il coûte plus cher qu'une bouteille de liqueur. C'est peut-être le fait que la bouteille de liqueur ne coûte pas cher qui pose problème. Surtout que ça peut amener d'autres problèmes de santé au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a eu tendance, je crois, puis on dispose ici au Québec d'un filet social extraordinaire. Et on a tendance à toujours attendre que l'État vienne sécuriser nos défis. Donc, on va attendre que l'État paye notre santé. On va attendre que l'État paye notre éducation. On va attendre que l'État nous donne du travail. On va attendre que l'État fasse ci, fasse cela. En même temps, il y a des associations qui vont encourager ce phénomène-là parce qu'il faut, oui, protéger les personnes les plus vulnérables. Donc, je ne peux que encourager ces associations-là. Mais en même temps, on est dans une situation où peut-être les gens apprennent moins développe moins de ressources pour être capable de pouvoir se cracher dans les mains puis se relever quand ça ne va pas. Et en même temps, il y a des gens qui se relèvent, il y a des gens qui font tout ce qu'ils peuvent, qui cumulent peut-être deux jobs aujourd'hui parce qu'il y a la crise, on a eu la crise sanitaire et on est dans une crise économique pour l'instant, puis ils rushent. Il y a des coûts qui sont de plus en plus chers. Quand tu as un jeune qui veut faire du hockey, ça coûte très cher à toutes les années de racheter du matériel pour que l'enfant puisse participer à cette fameuse course, puis probablement que des parents doivent à certains moments faire des choix, puis il y a des choix qui sont douloureux. Tu as le jeune aussi qui ne veut pas manger à la maison le matin parce qu'il a le ventre complètement retourné, parce qu'il a peur d'aller dans sa journée de travail, que ce soit parce qu'il a peur de ne pas réussir, que ce soit parce qu'il y a un peu d'intimidation, que ce soit parce qu'il y a trop de bruit, que ce soit parce qu'il est décalé par rapport à ses apprentissages, donc il n'a pas fait le matin. Donc le fait d'attendre peut-être parfois une heure avant de manger, éventuellement à l'école, ça peut faire la différence entre ne rien manger et avoir un accès. Et c'est là que j'aime beaucoup les petits déjeuners qu'on peut retrouver dans les écoles, parce que ça vient justement aider de manière aveugle, dans le sens qu'il n'y a pas de regard en fait sur sur les sources du défi pour l'enfant. C'est que si l'enfant enfin il a accès à ce service-là, et je trouve que c'est une des plus belles œuvres qui peut exister. Puis je te dirais que si on se revient 3 ans en arrière, quand il y a eu le premier confinement, on a ramené en fait les enfants d'école primaire, à l'exception du Grand Montréal, le plus vite possible vers les écoles pour 2 raisons. D'une part, on voulait leur permettre de pouvoir être à nouveau socialisés minimalement entre eux, et on voulait réduire le risque d'avoir des conséquences sur la... Parce qu'on savait qu'il y avait un peu plus de violence conjugale, un peu plus de violence intrafamiliale, qu'on va appeler de la violence éducative ordinaire, parce que les parents n'étaient pas bien, parce que les parents faisaient du travail à la maison, parce qu'il n'y avait parfois qu'un seul ordinateur pour tout le monde dans la maison et il fallait jouer tant bien que mal. On est dans un confinement, donc les enfants ne vont pas jouer dehors. Les jeux vidéo sont une chose, mais en même temps, ça peut amener beaucoup plus d'agressivité aussi. Ce qui fait qu'on ramenait les enfants le plus vite possible. Et une des discussions qu'on avait eues avec Jean-François Roberge à l'époque, c'était d'essayer de ramener les petits déjeuners dès que la santé publique le permettait, pour justement les enfants qui étaient dans un environnement plus compliqué.
Un enfant qui est mal nourri, quel impact que ça peut avoir dans son développement physique et au niveau cognitif?
Ben écoute, ce que l'on sait actuellement, c'est la Société canadienne de pédiatrie explique que là où on peut avoir un programme de support à la nourriture, là où c'est le plus validé d'un point de vue scientifique, c'est la qualité de la nourriture. C'est-à-dire diminuer les transformer, augmenter le nombre de légumes, les proportions de légumes, augmenter éventuellement tous les bons nutriments pour que l'enfant puisse réussir. Ça, c'est ce que la science nous dit. Mais sur le terrain, ce que l'on voit, c'est que quand un enfant n'a pas mangé, en fait, ou n'a pas mangé assez, il va avoir de la difficulté à se concentrer. Il va avoir de la difficulté à réguler ses émotions. Il va avoir de la difficulté à tolérer éventuellement soit une discipline que le professeur pourrait donner, soit éventuellement un père qui attire son attention d'une manière positive ou négative autour de lui, plus de difficultés à coopérer et ainsi de suite, tout simplement parce que comme il y a moins de nutriments, le cerveau est intelligent, d'accord? Malgré nous, malgré notre bonne volonté, c'est qu'il va primer, si tu veux, l'apport en nutriments essentiellement aux zones qui assurent la survie de l'individu, donc la partie, ce qu'on appelle le tronc cérébral, où certaines personnes utilisent le terme de partie reptilienne de notre cerveau. C'est ce qui va, orchestrer tout le système, toute l'homéostasie à l'intérieur du corps, et c'est ça qui va primer. Donc, s'il n'y a pas assez de nutriments, c'est certain que la partie les plus utiles qui est dans le préfrontal, donc la partie juste derrière notre front, dont on a besoin pour être attentif à l'école, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir réussir un exercice de mathématiques ou faire ses conjugaisons de manière adéquate. Mais cette partie-là du cerveau sera beaucoup moins innervée en sang parce qu'il y a moins de nutriments à apporter. Donc, c'est un enfant qui va avoir de plus en plus de difficultés d'apprentissage. Et si, en plus, on le chicane à juste titre parce qu'il fait peut-être quelque chose pour lequel on ne l'autorise pas, eh bien, il va aller d'échec en échec, et en allant d'échec en échec, il y a un moment donné où il va finir par décrocher du système scolaire, ce qui est bien dommage parce que c'est peut-être un talent que même si c'est un... Ça peut être... Moi, je trouve que parfois, on oublie que les métiers manuels sont extraordinaires. Parfois, on cherche un électricien, un bon mécanicien ou un bon menuisier. Ce sont des métiers qui sont très honorables et on pourrait trouver l'appareil du côté des filles. Mais... c'est certain que si le jeune s'en va avant d'avoir terminé son secondaire, ça fait peut-être une personne qui va avoir plus de difficultés à trouver sa part de bonheur dans la société.
Quand on bourre un enfant, puis on répète, là, on ne juge pas les parents, là, mais quand on bourre un enfant de sucre, il peut y avoir des impacts une fois rendu à l'école. Moi, je me base sur mes enfants à moi. Je peux te dire, Joël, je ne sais pas s'il y a eu des études scientifiques là-dessus, mais le chocolat, c'est comme du gaz d'avion pour mes enfants. Dès que je leur donne des Smarties le samedi après-midi, là, faut que je les envoie dehors, Joël, parce qu'elles sont pratiquement incontrôlables. Je me dis, tu sais, tu te parlais de la liqueur tout à l'heure qui est beaucoup moins chère que le lait. Les céréales, c'est bourré de sucre, ces céréales-là. Est-ce qu'on pourrait. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait peut-être mal juger un enfant en fonction de sa. Tu sais, de les enfants qui sont énervés, est-ce qu'on pourrait dire, ah, ben, il est peut-être TDAH, mais dans le fond, il est peut-être juste mal nourri, il est bourré de sucre à la maison. Est-ce qu'on pourrait faire cette erreur-là? Si cet enfant-là était bien nourri, il n'y aurait peut-être pas autant de problématiques et il ne serait peut-être pas autant énervé à l'école ou à la garderie?
Oui, et tout à fait. Il y a une très belle expérience qui a été faite par Sudengate en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Je vais y venir juste après, mais j'ai envie de répondre. Le problème, parfois, c'est qu'on fait confiance à des vulgarisateurs scientifiques qui ont certes une capacité de vulgariser les connaissances, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement suffisamment de connaissances en sciences pour pouvoir critiquer les articles qu'ils vont lire. Et je vais prendre l'exemple du pharmacien. Le pharmacien s'était prononcé dans une de ses émissions, peut-être même dans ses livres, je ne sais pas, contre l'idée que le sucre pouvait, comment dire, altérer le comportement d'un enfant quand il est à l'école. Ce qu'il a malheureusement oublié de considérer, c'est que l'industrie du sucre, qui cherche à augmenter ses parts de marché, a subventionné énormément de chercheurs depuis 30 ans pour démontrer que le sucre n'influence pas toute une série de problèmes comportementaux ou problèmes physiques. Donc oui, on sait qu'il y a des choses qui peuvent se faire. C'est souvent en fait le regard du parent, le regard de l'enseignant qui a pour moi plus de valeur qu'une étude scientifique dans ce cas-là, parce que quand tu vois que ton enfant bouge dans tous les sens, ben, tu sais qu'au moins pour ton enfant, c'est peut-être pas nécessairement l'idée du siècle de lui donner du chocolat juste avant d'aller dormir ou juste avant de faire son devoir de maths ou son étude de la conjugaison. Et c'est là que je reviens avec l'étude Sudengate qui a été faite il y a quelques années. C'est une étude que moi j'adore. Parce qu'en fait, elle a travaillé avec toute la communauté d'un village, donc aussi bien les parents que l'école, les enseignants, les enfants, à essayer d'éliminer juste 5 formes de colorants. C'est les 5 colorants qui sont extrêmement populaires. Et en éliminant ces colorants, donc ça ramenait en fait le parent à cuisiner un peu plus avec ses enfants le soir, parce qu'on n'allait pas chercher par exemple, des muffins à l'épicerie du coin, mais on le faisait à la maison. Donc ça ramène une certaine cohérence parentale qui peut être très intéressante là-dedans. À l'école, on sensibilise les enfants au sucre, on les sensibilise aux différents colorants, on les aide peut-être à lire une recette, ce qui fait que ça leur permet de comprendre à quoi sert ce qu'ils apprennent en mathématiques et en français. Donc, parfois, les enfants se trouvent que ce qu'on leur apprend, ça ne sert pas à grand-chose parce que par rapport à leur réalité, nous, on sait pourquoi ils apprennent la conjugaison ou les intégrales, mais l'enfant, il ne comprend pas pourquoi il le fait tant qu'il n'a pas un pont à construire par-dessus le Saint-Laurent. D'accord? Donc, en fait, il y a tout un travail qui est fait. Les enfants mangent à ce moment-là de plus en plus sainement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ils vont filmer la semaine qui précède le début, en fait, de leur expérience et 2, 3 semaines après le début de leur expérience. Et au début, on voit des enfants qui courent dans tous les sens, qui sont surexcités, qui crient, qui hurlent, qui se bousculent les uns les autres. Les enseignants disent qu'ils constatent que les élèves ont de la difficulté justement à se concentrer et à respecter les consignes. Et 2 semaines plus tard, tous ces comportements problématiques ont complètement disparu. On voit des enfants qui sont dans un calme, qui parlent entre eux, qui échangent, qui sont respectueux les uns avec les autres. Le directeur de l'école disait qu'avant qu'ils n'entament l'expérience, ils devaient faire 7, 8, 9, 10 interventions par jour au niveau disciplinaire et de sévères interventions. Et dans la deuxième semaine, il n'y avait plus que 2 interventions sur l'ensemble de la semaine. Donc, c'est certain que oui, la nourriture que l'on mange va avoir une incidence. Et c'est là que je reviens avec l'étude qui a été, enfin, les études qui ont été réalisées ou compilées par la Société canadienne de pédiatrie. C'est que quand on mange bien, eh bien, à ce moment-là, on est beaucoup plus disponible pour les différents apprentissages et le respect des normes sociales auxquelles on s'y attend. Donc, c'est un gros dossier. Puis, il ne faut pas que le parent comment dire, s'envolent si de temps en temps ils cèdent et qu'ils donnent un morceau de chocolat ou l'autre. Parfois, ce n'est pas juste le chocolat. Si tu prends un chocolat qui est pur à 85%, il y a beaucoup moins de sucre qui va être ajouté. Si tu prends du chocolat au lait, mais certain qu'il y a beaucoup plus de sucre. Donc, la qualité de chocolat va avoir une incidence potentielle sur la réaction de l'enfant. Une autre chose aussi qui est importante, c'est que si vous avez envie de mettre du sucre sur une gaufre ou sur une crêpe, mais préférez le sirop d'érable plutôt que de mettre du sucre blanc qui a été, industrialisé de manière effroyable. Et c'est l'industrialisation du sucre qui pose plus de problèmes. C'est pas pour rien qu'ils ont financé des chercheurs compatissants pour démontrer que leur produit était correct.
Mais en tant que parent, pour ce qui est du sucre, moi, je choisis mes moments là, pour leur en donner. Jamais, jamais le soir. Puis moi, c'était ça, le soir, avant de me coucher, je mangeais des céréales quand j'étais jeune. Puis la nuit, je te faisais des rêves à n'en plus finir. Puis le lendemain, ben, je déjeunais avec des céréales, puis j'arrivais à l'école très énervé. Là, maintenant, moi, pour mes gars, c'est plus avant leur game de hockey, s'ils veulent manger des céréales, j'ai aucun problème avec ça. S'ils veulent manger du chocolat après avoir déjeuné, puis ils vont jouer dehors, j'ai pas de problème avec ça. Mais le soir, j'ai coupé le sucre. Puis l'école, quand ils ont de l'école aussi la semaine, le matin, c'est beurre de peanut, puis toast, puis des fois peut-être des œufs, du bacon, mais jamais, jamais le sucre. J'essaie de l'éviter pour pas trop avoir de problème avec le professeur de mes enfants, parce que moi, je te le répète, là, c'est du gaz d'avion pour mes enfants, le sucre. Là. Donc, en le sachant, j'essaie le plus possible de l'éviter. On va mettre un peu d'action.
Oui, puis je voulais dire, c'est qu'il y a des enfants qui peuvent avoir des comportements prédiabétiques à cause du fait qu'ils ont, et ça ressemble par exemple à du TDA ou du TDAH. Et donc, parfois, on va se centrer sur le comportement et on risque de faire une intervention éducative ou thérapeutique complètement erronée parce que justement, la nutrition n'est pas adéquate pour l'enfant.
On va mettre un peu d'action dans notre discussion. Je vais risquer ma job en te parlant de ce sujet-là parce que je sais que c'est un sujet qui peut provoquer bien, bien, bien des débats. Je ne sais pas si tu as entendu parler du fameux Fred le bison non binaire là, sur Netflix. C'est un petit comique qui s'adressait aux enfants. Puis, dans lequel il y avait un bison qui était non-binaire, puis c'était sur Netflix. Et là, Netflix a décidé de retirer ça. Puis, les raisons, là, tu sais, il peut y en avoir de multiples. Il y a des gens qui sont choqués de ça. Il y en a d'autres qui disent « Ah, ben, tu sais, ça valait peut-être la peine de retirer ça. » Mon avis, moi, sur les enfants, c'est laissons les enfants être des enfants. On a des idées, nous, en tant qu'adultes, puis on a une éducation en tant qu'adultes, mais il y a certains trucs qu'on pourrait laisser de côté en attendant que nos enfants vieillissent puis soient en âge de comprendre. Commencer à expliquer ce qu'est un être non-binaire, j'ai l'impression que ça peut compliquer l'enfance de nos enfants. Moi, c'est laissons nos enfants être des enfants. Si un enfant qui est né dans un corps de jeune fille vient au monde puis il se sent garçon, ben laissons-le se sentir garçon, puis inversement. Puis si c'est un garçon qui est un garçon, laissons-le être un garçon aussi. Mais de commencer à induire des choses que nous, on a appris plus tard en tant qu'adultes à des enfants, je me dis, est-ce qu'on joue pas un peu avec leur cerveau en mettant des éléments qui n'ont pas nécessairement à savoir pour l'instant. Quel est ton avis, toi, là-dessus, sur le fait qu'il y a des comiques maintenant qui parlent de la non-binarité chez les enfants?
Mais écoute, je dirais que le hasard fait en sorte que quelqu'un m'a envoyé l'extrait justement du fameux dessin animé dont tu me parlais ce matin. Je crois que c'est un sujet qui est délicat et on n'est peut-être pas encore arrivé à proposer aux parents et au monde scolaire, et même peut-être au monde de la santé, des lignes directrices cohérentes pour justement faire des choix. Et on répond en fait à une détresse d'un groupe d'adultes qui s'est senti brimé pendant des années et des années. Et puis j'ai beaucoup de compassion pour toute la souffrance qu'ils ont eue pendant des années de ne pas arriver à se comprendre, à trouver leur place dans la société, à être respectés, surtout ceux qui ont malheureusement subi de la violence psychologique ou physique parce qu'ils étaient différents de la majorité des êtres humains, où ils se sentaient différents de la majorité des êtres humains. Alors, tu sais, je réfléchissais un peu à ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut faire? Puis la première chose qui m'est venue en tête quand tu m'as demandé si on pouvait aborder ce terme-là ou ce thème-là pendant l'émission, c'est de me souvenir que quand mon garçon était au CPE, il y a quelques années, dans son groupe, il y avait un enfant qui était né avec un sexe masculin et qui s'habillait toujours avec des robes. Et pour les enfants, ça ne posait absolument aucun problème. C'est juste que cet enfant, ben, il s'habillait avec des robes. Point. Par contre, en parallèle, il y avait un suivi par la DPJ pour s'assurer que le choix de l'enfant de mettre des robes le matin correspondait bien au choix de l'enfant et pas pour quelque chose de particulier qui est bien vécu ou mal vécu par les parents. Donc, de pouvoir arriver à séparer les enjeux qui touchent l'enfant dans son cheminement, dans son appropriation de qui il est. Puis on s'entend, l'enfant, il avait 2 ans et demi, puis mon fils est resté avec lui jusqu'à ses 5 ans et demi. Donc, on est vraiment au tout début de la découverte qu'il est une personne à part entière, mais son affinité était de mettre des robes. Donc, pourquoi pas, tu sais, quelque part. Puis je n'ai jamais vu un enfant se moquer de lui dans le groupe. C'est vraiment, ça a été très accepté. Donc, moi, je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose auquel je pensais... En me préparant pour l'entrevue, c'est de me souvenir d'un documentaire qui est sorti dans les années 80 et qui, pour moi, a beaucoup inspiré ma carrière. Et en fait, qu'est-ce que ce documentaire-là abordait? C'est un documentaire qui était franco-québécois, qui a été fait par Bernard Morino, qui s'appelle Le bébé est une personne. Et en fait, il fait parler différents spécialistes, différents parents de toute une série d'expériences, que ce soit naître dans une piscine, que ce soit naître naturellement ou avec le support médical et ainsi de suite. Donc, il aborde vraiment l'ensemble des choses. Et une des séquences qui, moi, m'avait beaucoup marqué quand je l'ai vu quand j'avais 17 ans, c'est qu'ils sont en train d'interviewer un grand spécialiste dans un hôpital français et on prévient en fait le spécialiste qu'en haut, à l'étage, en obstétrique, il y a un bébé qui est né depuis 3 jours et ça fait 3 jours, en fait, qu'il refuse de regarder sa maman. Donc, quand c'est une infirmière, le regard est là, les yeux sont ouverts. Quand c'est le papa, le regard est là, les yeux sont ouverts. Okay? Mais quand c'est la maman, refus complet d'ouvrir les yeux. Et la maman, ça l'attriste énormément. Puis, le spécialiste vient près d'elle et commence à lui poser des questions. Puis la famille avait accepté que l'entretien se fasse filmer. Et à ce moment-là, le spécialiste dit, écoutez, parlez-moi un petit peu de comment ça s'est passé la grossesse. Et la maman, pour faire une histoire courte, la maman, en fait, c'était sa 3e grossesse. Et elle avait su que c'était pour la 3e fois un enfant du même sexe. Donc, elle était triste parce qu'elle aurait donc voulu son enfant, le 3e, soit un sexe différent des 2 premiers. Et bon, ben, c'est pas grave, tu sais, contre mauvaise fortune, bon cœur, le bébé va naître et ainsi de suite. Et puis, le bébé est dans ses bras, d'accord? On le voit, la caméra est centrée sur le visage de la maman et sur le visage du bébé, et on voit clairement que l'enfant a les yeux fermés. Bref, le spécialiste commence à ce moment-là à demander à la maman, « Mais est-ce que vous aimez votre enfant? » « Ben oui, j'aime mon enfant. » La question s'est jamais posée pour moi. Oui, j'aurais voulu que ce soit un autre sexe, mais j'aime mon enfant de tout mon cœur. Et donc, en fait, le spécialiste va faire verbaliser la maman de tout l'amour que la maman a pour son enfant. Et on voit en direct le bébé qui ouvre les yeux, qui fait son premier contact visuel avec sa maman 3 jours après la naissance. Et ça, pour moi, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas le prouver parce qu'on ne pourra jamais avoir 30 histoires, les mêmes histoires, dans un laboratoire pour pouvoir arriver. Par contre, des phénomènes comme ça, il faut qu'on les documente. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé lorsque Bernard Morino avait apporté, justement, parce qu'il y avait plein d'autres exemples de cet ordre-là qui, moi, m'avait touché beaucoup. Puis quand tu me demandais pourquoi je m'étais intéressé aux neurosciences et aux enfants, ce documentaire-là a été fondateur pour moi dans la direction que j'ai donnée à ma carrière. Donc, pour moi, il faut faire attention parce que je peux comprendre que les parents, ils ont un vécu. On sait que il y a des choses qu'on peut prouver scientifiquement sur la manière dont on peut mettre au monde un bébé, sur quelle partie de son cerveau se développe avant d'autres, comment sont toutes les étapes de développement du corps. Mais on est encore tellement loin dans la compréhension de qu'est-ce que le bébé a comme conscience et à quel moment sa conscience intervient. Et Là, c'est vraiment important, mais c'est en même temps, c'est un sujet qui est extrêmement risqué. Et je crois que ce serait très difficile d'être subventionné pour pouvoir arriver à faire des recherches spécifiques là-dessus, parce que ça remettrait en question certaines théories, comme la théorie du genre. Ça remettrait peut-être même en question certaines décisions qui peuvent être prises par rapport à l'avortement. Parce que bien souvent, on se dit qu'une maman peut avorter parce que le cerveau de son enfant n'est pas assez développé pour ressentir et pour percevoir la douleur. Donc, on autorise l'avortement. Et puis, je suis en faveur que l'avortement soit disponible pour les personnes. Mais si on commence à explorer ces éléments-là, bien c'est certain que ça peut venir bousculer notre société parce que c'est comme si on oppose malheureusement souvent les droits des uns aux droits des autres au lieu de regarder, OK, c'est quoi l'intérêt primaire?
Exact.
Troisième élément, est-ce qu'on doit à ce moment-là mettre systématiquement la DPJ dans les familles où il y a des questionnements de cet ordre-là, par exemple, une famille qui déciderait de ne prendre un nom, non-genré, un prénom non-genré, OK, et de s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est à ce moment-là, c'est où mettre la limite, et de définir dans notre société qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et si je ne suis pas croyant, est-ce que je pourrais trouver anormal qu'une famille bâtisse son enfant? D'accord? Si je suis mal à l'aise par rapport à certaines manières de voir la vie, de voir la spiritualité, est-ce qu'on devrait envoyer la DPJ chez des témoins de Jéhovah ou on devrait envoyer les DPJ chez des personnes de religion hassidique? Donc, on n'a pas encore... on ne peut pas y aller de manière directe, proactive, coercitive par rapport à tout ça. Il faut juste espérer que le parent ait toujours comme premier souci, c'est le bien de l'enfant.
Exact.
Et pas son bien à soi.
Oui.
Et c'est là, donc encourager la bienveillance auprès des enfants, encourager les interventions bienveillantes pour s'assurer que le choix qui est fait par le parent est fait en son âme et conscience, qu'il ne soit pas... contraint par une idéologie X, Y, Z, qu'elle soit religieuse, sociale ou autre, et donc de s'assurer que l'enfant puisse naître. Et ça, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est l'encouragement à la bienveillance envers nos enfants. Et c'est donc de responsabiliser à ce moment-là notre société et nos parents qui pourrait potentiellement réduire le risque de danger.
Il faut toujours faire attention à ce qu'on tente, nous, en tant qu'adultes, avec nos connaissances, d'induire dans la tête de nos enfants, parce que ça peut avoir des effets assez particuliers, qui peuvent être positifs, mais aussi négatifs. Donc, il faut faire attention. Joël Monzon, on parle maintenant de parentalité bienveillante. Il semble que Québec Science a tenté de publier une critique du concept de parentalité bienveillante. Puis, ça donne que toi, tu prônes ça, la parentalité bienveillante.
Oui, en fait, Marine Corneau, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais discuté avec elle, elle est la rédactrice en chef adjointe de Québec Science, a fait un gros article qui a fait beaucoup de bruit depuis quelques jours parce qu'elle tire à boulet rouge sur justement la parentalité dite positive. Moi, je préfère utiliser le terme de parentalité bienveillante. Et en fait, elle a amené un débat franco-français qui a été lancé essentiellement et bien entretenu par Caroline Goldman, la fille du chanteur de Jean-Jacques Goldman,
oui.
Qui en fait prétend que la parentalité positive ou la parentalité bienveillante, c'est de laisser l'enfant faire tout et n'importe quoi, ne jamais lui donner de consignes, ne jamais lui donner d'interdits, ne jamais lui mettre de limites. Et c'est ce qui fait en sorte que les écoles iraient si mal que ça aujourd'hui. C'est à cause, en fait, de la parentalité bienveillante. Et malheureusement, au lieu de contacter, par exemple, Isabelle Filioza ou Catherine Guéguen, voire moi éventuellement, il y a Jean-François Belmonte aussi en France qui fait beaucoup de travail par rapport à ça. Elle s'est servie des réseaux sociaux pour critiquer Isabelle Filioza et Catherine Guéguen, ce qui fait que c'est malheureusement un peu problématique parce que il y a pour moi, de ce que je connais du monde journalistique, parce que ça fait 25-26 ans que je suis interviewé, donc j'ai quand même eu de nombreuses expériences journalistiques ou avec des animateurs comme toi, Yannick, pour pouvoir déceler quand on tourne un coin rond, puis je trouve que c'est très maladroit de sa part parce que elle ne comprend pas probablement c'est quoi la parentalité bienveillante. Il se peut aussi que les sites qu'elle a été voir sur Facebook ou ailleurs transmettent de l'information qui est incorrecte. Et je peux comprendre en même temps que s'il y a des coachs familiaux qui essayent d'aider des parents et que les parents demandent « je veux des trucs, je veux des trucs, je veux des trucs », mais que le coach va dire « ben oui, voilà tel truc, tel truc, tel truc », mais la parentalité bienveillante, ce n'est pas des trucs, ce n'est pas des psychotrucs. La parentalité bienveillante, c'est une posture en tant que parent que l'on adopte où on cherche à faire le bien pour notre enfant, où on cherche à éviter les rapports de force. Mais je peux être sévère comme papa, et si tu demandais à mon gars, il dirait « oui, mon papa est très sévère ». Je peux être sévère avec mon fils, je peux être sévère avec les enfants de ma blonde, parce que quand ma blonde, je l'ai rencontrée, elle est venue avec un package deal, il y avait deux enfants qui avaient 2 ans.
On appelle ça des préfabriqués.
Des enfants préfabriqués, c'est une bonne expression, je vais la garder là. S'il y a des droits d'auteur, tu vas me le dire.
Ah ouais, d'accord.
Donc c'est ça, donc, mais de pouvoir arriver en fait à être un parent qui assume sa réalité de parent, mais toujours dans un objectif de voir, OK, quand je donne cette consigne-là, quel est le but? Quel est le sens? Il faut que moi, comme parent, je le sache. Si je donne une consigne pour avoir la paix, est-ce que c'est une consigne qui est faite pour moi ou pour l'enfant? À la rigueur, j'ai peut-être besoin d'avoir la paix, et si j'ai la chance, ce qui est mon cas, de pouvoir bénéficier d'un partenaire de vie qui peut éventuellement compenser à un moment donné, ben pourquoi pas? Mais si mon enfant ne va vraiment pas, il faut que je mette de côté mon besoin de solitude ou mon besoin d'être tout seul parce que mon enfant va demander éventuellement plus de l'attention. Et si je ne suis pas capable de faire ce choix-là et que je m'isole, par exemple, mais mon enfant va faire de plus en plus de gaffes pour attirer mon attention d'une manière ou d'une autre. Et parfois, l'enfant est bien intentionné là-dedans. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'est pas malicieux. Il n'est pas en train de nous... comment dire, d'essayer de nous manipuler. Il est juste dans une quête. J'ai besoin que mon papa, j'ai besoin que ma maman, j'ai besoin que mon professeur prennent soin de moi parce que là, pour l'instant, je ne vais pas bien. Mais c'est mes mots à moi. L'enfant ne va pas être capable de le nommer de cette manière-là. Et écoute, j'ai une anecdote à te raconter il y a quelques années. C'est bon, quand les enfants sont à la maison, si la porte de mon bureau est grande ouverte, ils peuvent venir me voir n'importe quand. Si la porte de mon bureau est entrouverte, à ce moment-là, ils ne peuvent venir que si c'est important. Et si la porte est fermée, il faut vraiment que ce soit urgent que j'intervienne. OK? Et il y a un moment donné, quand mon garçon avait 4 ans, eh bien, je le vois arriver dans mon bureau, en fait, à la devanture de mon bureau, parce que j'ai une vitre qui me permet de voir ce qu'il y a de l'autre côté, avec un couteau de cuisine. Oups. Deux fois oups. Le premier, c'est le couteau de cuisine.
Ouais.
Mais l'autre chose, c'est que pour avoir le couteau de cuisine, il est allé chercher une chaise dans la salle à manger. Il l'a amené à côté du comptoir de la cuisine, il est monté sur la chaise, il est monté sur le comptoir, il est allé chercher le couteau de cuisine à 8 pieds de haut, d'accord? Nos plafonds sont à 9 pieds, donc ils sont très hauts, ok? Et redescendre avec le tout sans se blesser et m'apporter le couteau main ouverte. Et là, j'ai mon garçon, je dis « qu'est-ce que tu fais avec le couteau? » Ma porte était fermée, je venais de lui ouvrir, d'accord? Et lui, à ce moment-là, il ne le sait plus. Et c'est normal, il doit avoir 4 ans à ce moment-là. Il sait plus ce qu'il a eu comme idée de génie 30 secondes ou 2 minutes avant, d'accord? Toujours est-il qu'il est là avec son couteau. Et alors là, je le regarde, je dis, est-ce que ça se pourrait que tu as besoin d'un câlin? Oui, papa! Et donc, à ce moment-là, je dis, écoute, je vais reprendre le couteau, je le mets sur le côté, OK? Et tu vas pouvoir me faire un gros câlin. Donc, dans son cerveau d'un enfant de 4 ans, il ne cherchait pas à transgresser une consigne que j'ai donnée. Il ne cherchait pas à tester une limite. Il ne cherchait pas à me provoquer. Il cherchait juste, « Hey, j'ai besoin d'un câlin, papa, et ta porte, elle est fermée, puis je veux respecter la consigne. Je n'entre pas si la porte est fermée, si ce n'est pas urgent. Si je viens avec un couteau de cuisine, c'est urgent. » Donc, ouais. L'enfant va essayer d'utiliser des stratégies qui sont parfois correctes, parfois maladroites, parfois incorrectes, pour pouvoir atteindre son besoin de lien, son besoin de rencontre avec le parent. Donc, si moi, je le sais comme parent, plutôt que de me fâcher sur l'enfant, j'essaie juste de comprendre, OK, c'est quoi qui l'a motivé? Et donc, on a rajouté dans la famille une quatrième règle quand je suis dans mon bureau et que la porte est fermée. Je dis, si je ne suis pas au téléphone, parce que je pourrais être avec un patient, je pourrais répondre à une entrevue journalistique, d'accord? Donc, si je ne suis pas au téléphone, à ce moment-là, tu peux frapper, venir me faire un câlin et repartir par la suite. Et si tu savais que le nombre de fois que mon fils est venu simplement jouer avec ses Lego à côté de moi pendant que je suis en train de travailler, j'écris un article, je compile des données de recherche, je prépare une conférence. Lui est juste heureux d'être à côté de moi avec ses Lego. Donc, s'il a cet espace-là, il n'a pas besoin de faire des niaiseries. L'enfant ne va faire des niaiseries qu'à partir du moment où il y a un mal-être en dedans de lui, qui a un besoin, il y a de la peur, il y a un manque de quelque chose, et ce qui fait en sorte qu'il va préférer être puni que d'avoir l'impression de ne pas être considéré. Et si moi, je comprends cette dynamique-là, pourquoi est-ce que je me fâcherais sur lui?
Exact.
Je vais être sévère, on ne touche pas au couteau, on va essayer de trouver quelque chose pour répondre à ton besoin, mais je n'ai pas besoin de me fâcher sur lui.
Et puis, depuis ce jour, est-ce que tu t'es ramassé avec beaucoup de couteaux dans ton bureau ou pour avoir des câlins? Est-ce qu'il t'amenait des... Non?
Non, en fait, c'est arrivé deux fois. C'était la deuxième fois que j'ai proposé l'amélioration de ça, puis il n'y a plus besoin de couteaux, tout
ben
simplement.
Voilà, voilà.
Parce que comme le message était compris pour mon fils et surtout pour le papa que j'étais, mais on a mis en place autre chose. Et c'est vrai que ça prend du temps parfois de questionner son enfant. Puis quand on a un enfant qui est aussi jeune, il faut toujours y aller par des questions fermées, qu'ils répondent par oui ou par non. Si l'enfant répond pour nous faire plaisir, on ne verra pas de changement dans sa posture. Si l'enfant, on met le doigt sur son vrai besoin, sa vraie peur ou son vrai manque, eh bien l'enfant va « Oh !» On va, excusez-moi, je fais du bruit pour essayer de transmettre ce qu'on, le corps va relâcher complètement les tensions. Et là, on sait qu'on a ciblé quelque chose, mm-hmm. Tu vois. La même chose, on est en visite, l'enfant est excité, il court un peu tout partout, il joue avec les amis, il y a peut-être un gâteau dans lequel il y avait du sucre, il y a de l'activité, il y a du mouvement. Mais c'est certain que tôt ou tard, il va y avoir de la maladresse. Donc, si moi, je le sais, pourquoi est-ce que je me fâcherais? Mais je vais intervenir pour dire, hey, Coco, est-ce que tu as besoin juste de te déposer quelques instants? Est-ce que tu as besoin juste de venir dans mes bras quelques instants? Puis si je peux faire un câlin avec lui, ça libère de l'ocytocine, ça calme son stress, puis pouf, il peut repartir et il va jouer de plus belle avec ses amis. Donc ça me demande d'être présent.
Ouais. Pour Québec Science, qui a publié une critique là, sur le concept de parentalité bienveillante, est-ce qu'il y a juste une façon d'éduquer les enfants ou il y en a plusieurs?
Mais non, parce que c'est ça le danger d'ailleurs dans les interventions parfois des coachs familiaux, c'est qu'ils viennent souvent avec des techniques et la parentalité bienveillante, ce n'est pas une technique. La parentalité bienveillante, c'est essayer de comprendre son enfant, de comprendre les étapes du développement, comprendre que c'est normal qu'un enfant de 5 ans ait de la difficulté à se réguler émotionnellement, comprendre que c'est normal qu'un adolescent va claquer la porte quand il est furieux contre nous ou contre quelque chose qui s'est passé à l'école, et de nous inviter en fait à prendre le temps de l'écouter et de trouver la meilleure manière de pouvoir l'accompagner dans son développement. C'est avant tout une pratique. Tu sais, quelque part, il n'y a personne qui accepterait qu'un patron se comporte comme certains parents peuvent malheureusement se comporter envers leur enfant en criant, en menaçant, en faisant toute une série d'interventions coercitives. Il y aurait un grief syndical très, très rapidement. Je ne dis pas que ce n'est pas normal pour le parent de crier, ça fait partie de la vie. On a tous nos points de rupture, on a tous le moment où on n'en peut plus, on a tous des moments où nous aussi, on a besoin qu'on prenne soin de nous. Il faut espérer que notre partenaire de vie puisse contribuer à ça. Si ce n'est pas le partenaire de vie, ça peut être un ami ou une amie, d'accord? Donc, les rassemblements des dîners de filles ou des dîners de gars, ça peut parfois être bien utile pour pouvoir relâcher un peu la pression. Et si on n'y arrive toujours pas, ben peut-être qu'un coach ou peut-être qu'un psychothérapeute peut contribuer à ramener un peu de calme à l'intérieur. Donc, c'est d'arriver, en fait, à se comprendre, à voir à quel moment on se trompe. Et il n'y a personne qui nous demande des papas et des mamans cailloux. De toute façon, papa et maman cailloux, il ne faut pas ressembler à ça parce que l'enfant, quand il voit des parents parfaits, ça l'effraie. Il a besoin de voir nos imperfections. Il a besoin de voir qu'on se trompe. Il a besoin de voir qu'on hésite. Il a besoin de voir nos contradictions.
Parce qu'il
va
voir.
Mais il a aussi besoin... Ouais.
Mais il va
qu'on
voir
s'excuse
ça aussi.
Quand on se trompe. Oui.
Exact. Il va voir ça aussi dans la société par la suite. Là. Des individus qui peuvent se tromper, des individus qui font des erreurs, des individus qui exagèrent peut-être certaines émotions quand ils sont fâchés, tout ça, ça va faire partie de, ça va faire partie de leur vie. Hey, je reprends vos paroles que je peux lire sur ton site internet, Joël Monzé. Est-ce qu'un chercheur pourrait dégager un programme généralisable à toutes les familles? En d'autres mots, est-ce qu'on pourrait dicter de bonnes conduites précises à exercer en tout temps, un peu comme une recette magique qui assumerait le bien-être de tous?
Si nous étions des fourmis, si nous étions des crocodiles, oui. C'est-à-dire qu'un insecte n'a pas d'émotion, un crocodile n'a pas d'émotion, les reptiles n'ont pas d'émotion. Le fait qu'on a des émotions, ça fait en sorte qu'on va avoir une certaine profondeur, on va avoir une certaine contenance, on va avoir une certaine manière de vivre une chose ou l'autre. Et nos émotions vont nous guider dans des comportements qui sont parfois très, très bien joués, d'autres fois qui sont malheureusement trop maladroits, voire inacceptables. Mais nos émotions vont venir justement donner cette couleur-là. Et je te dirais, Yannick, pour l'instant, on est en train de jaser à la radio, mais si pendant qu'on jase, nos blondes sont en train de consulter le livre « La meilleure manière de masser votre conjoint quand il rentre du travail », est-ce que ça va marcher? Le livre peut être un best-seller, d'accord? Mais ça va dépendre dans quelle énergie on va rentrer, dans quelle énergie elles ont. Aussi, parce que si elles ont eu toute leur journée dans le corps, s'il y a eu des disputes entre les enfants avant qu'on arrive, ça va venir moduler leur manière de pouvoir éventuellement nous masser. Donc, elles peuvent avoir une bonne intention, nous pourrions avoir une belle réception, mais chacun, nous, va réagir. Puis, il y a peut-être un certain type de massage que toi, tu vas préférer, alors que moi, je vais préférer un autre type de massage. Donc, il va y avoir des choix individuels. Donc, de chercher une technique ou une méthode qui, hors de tout doute, grâce à des données probantes, va faire en sorte qu'on va être capable d'intervenir de manière adéquate avec nos enfants. C'est un leurre, c'est même presque dangereux parce que je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on a autant de jeunes qui sont sous médication au Québec. D'accord? Non seulement on a l'assurance médicaments qui donne un accès aux médications comme les psychostimulants de manière très facile ou les antidépresseurs, mais c'est surtout parce qu'on veut intervenir avec des solutions toutes faites, toutes préparées, toutes mâchées. Parfois, on a l'impression que ça va nous faire gagner du temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains trucs qui ne peuvent pas être utiles. D'accord, qu'il n'y a pas certaines stratégies qui peuvent être utiles. Mais cette stratégie-là, parfois, à 5 minutes près, elle peut amener à un échec. Ce n'est pas la stratégie qui est problématique, c'est qu'est-ce que moi je porte au moment où j'interviens et qu'est-ce que vit la personne au moment où j'interviens. Et s'il y a une belle rencontre parce que l'enfant est disponible et que je suis disponible, il est fort possible que la stratégie, elle marche. Mais parfois, si j'interviens 5 minutes trop tôt ou 5 minutes trop tard, la stratégie, elle est vouée à l'échec. Et ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de timing. Et guider des enfants, guider des ados, être en amour, ce sont des timings.
Joël Monzé, est-ce qu'il y a de la littérature sur la parentalité bienveillante qu'on peut en voir sur ton site internet, exemple?
Oui, en fait, j'ai plusieurs livres, dont deux qui viennent d'être édités, qui sont en réédition. J'ai juste besoin de votre attention et j'ai juste besoin d'être compris, qui ont été publiés chez Dauphin Blanc. Il y a un autre livre qui s'appelle « Et si on les laissait vivre ?» Donc, ce sont trois livres que je ne peux que vous conseiller. Il y a les livres de Catherine Guéguen, il y a les livres d'Isabelle Filioza, qui sont de très bonnes références. J'ai mon site cerveau-et-psychologie.com où les parents qui voudraient avoir des outils vont pouvoir aller mieux comprendre comment fonctionne le cerveau de leur enfant et de leur adolescent. Et à partir de là, on peut leur dire, ben voilà différentes formes de stratégies et en fonction de ce que porte votre enfant, votre ado, quelle est sa disponibilité, quelle est votre disponibilité à vous, voilà ce qui aurait de fortes chances de marcher et voilà ce qui risque de ne pas marcher. Donc, on aide les parents à se responsabiliser et à développer leurs propres talents, leurs propres ressources.
Chaque week-end, Joël Monzé, j'ai 4 enfants chez nous, 2 qui m'appartiennent puis 2 qui sont préfabriqués et je peux te dire que le nombre d'écrans à qui sont ouverts à la maison est assez épeurant. J'essaye le plus possible, Joël, de les éloigner de ces écrans-là avec différentes stratégies que j'emploie. Puis parfois même, j'essaie d'impliquer aussi les 2 préfabs qui sont un peu plus vieilles puis qui sont un peu plus en mesure de comprendre. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont probablement sensiblement le même problème que moi, Joël, c'est quoi exactement que les écrans font sur le cerveau de nos enfants qui fait en sorte qu'il faudrait limiter le temps d'utilisation des écrans? Parce qu'ils ont ça à longueur de journée d'en face, ils ont ça à longueur de soirée, puis là, maintenant, ça suit à la maison avec les jeux vidéo puis les téléphones cellulaires.
Mais la première chose à savoir, c'est que toutes les familles, ou 95% des familles, sont prises avec le même défi. D'accord? Donc, c'est l'heure du temps. Et le danger, c'est d'imaginer ça comme étant un nouveau problème, alors que moi, je préfère le voir comme ça va être la même chose qu'on va devoir faire quand le jeune va vouloir consommer de l'alcool, va vouloir consommer du pot, va vouloir sortir avec ses copains, va vouloir éventuellement avoir un vélo moteur ou avoir sa voiture et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une occasion d'apprendre à notre enfant à devoir tolérer des limites. Tu sais, quelque part, moi, vous l'entendez avec mon accent, j'ai le bonheur de vivre au Québec, mais j'ai vécu en Belgique avant de venir vivre ici au Québec. Et j'ai grandi à 30 km de l'Allemagne. Donc, en Allemagne, les limitations de vitesse sur l'autoroute sont quasi inexistantes, sauf proche des grandes villes.
Les fameuses autobahnes.
Exactement. Rouler à 180, 190, 200 km/h, je l'ai déjà fait, je triple là-dessus. J'ai fait beaucoup de karting, j'adore le karting. Donc, moi, j'aime la vitesse. Je vais d'ailleurs, quand je fais du ski, j'aime pas le slalom, j'aime le downhill. D'accord? Je fais un peu attention. Mais toujours est-il que si je reviens avec la vitesse, si je commence à rouler au Québec avec la vitesse que j'ai pu rouler quand j'étais quand je vivais encore en Allemagne, en fait, en Belgique, donc j'allais en Allemagne, eh bien, il y a un policier qui va m'arrêter, qui va mettre une limite. Donc, des limites, on en a tous. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'eux, ça veut juste dire qu'il y a des limites, et ces limites-là, l'enfant doit apprendre à les gérer. Si nous, comme parents, on n'arrive pas à faire respecter nos limites, comment est-ce qu'on veut que notre enfant, quand il est à l'école, il puisse entendre les limites du milieu scolaire? Et ça, à ce niveau-là, l'article de Québec Science n'avait peut-être pas tort en disant que malheureusement, beaucoup trop de parents sont permissifs, d'accord? Parce qu'on a peur de dire non à notre enfant. Puis pour moi, ne pas dire non à son enfant, c'est de la violence psychologique et donc c'est de la négligence. Donc quelque part, ça fait partie des choses. On doit dire non à nos enfants, on doit leur mettre des limites. De la même manière qu'on apprend dans une relation amoureuse que quand l'autre nous dit non, eh bien, on ne va pas plus loin et on ne force pas une relation intime éventuellement avec la personne, d'accord? Donc, le non, il a sa valeur. Donc, si le parent prend, je vais mettre des noms et je vais mettre des limites à mon enfant parce que ça va l'aider à mieux fonctionner à l'école, ça va l'aider à mieux fonctionner dans la société, ça va l'aider à mieux fonctionner en amour avec quelqu'un d'autre, le fait de dire non, c'est déjà moins pire parce qu'on apprend à notre enfant à tolérer la frustration. Et les enfants doivent apprendre à la tolérer parce qu'à l'école, il y a continuellement des limitations. Notre société va faire des limitations dans une relation amoureuse, même quand on est marié ou quand on est en couple depuis longtemps. Il y a des limitations, d'accord? Donc, d'apprendre à gérer la frustration quand on nous dit non, c'est fondamental, en fait. Alors, à 2 ans, c'est l'enfer pour l'enfant. À 4 ans, c'est encore très difficile. Ça redevient difficile à l'adolescence, mais le non fait partie de l'éducation et nos enfants doivent, ou quand on doit dire non à des footlooses, par exemple, ça fait partie, justement, de ce que l'enfant doit apprendre. Donc, quand on voit le problème d'écran à travers ça, ouais, ben, c'est plus un problème, c'est une occasion d'aider nos enfants à tolérer un non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi est-ce que je lui dirais non pour une tablette ou pour des jeux vidéo ou pour du chatting avec ses amis? Mais il faut savoir qu'il y a une étude qui a démontré qu'il suffit de 8 minutes de télévision le matin pour perturber la capacité de concentration sur l'ensemble de la journée d'un enfant. Ah, bon, OK. Donc, de dire non à mon enfant le matin, oui, je risque peut-être d'avoir une crise, oui, je risque peut-être d'avoir un mauvais moment, mais à un moment donné, l'enfant va finir par comprendre que mon nom, c'est un nom et que ça ne sert à rien de tenter de me faire changer d'avis. Mais surtout, je vais garantir une capacité de concentration beaucoup plus efficiente pendant la journée. Je vais avoir un enfant qui va mieux répondre aux consignes du professeur ou de l'éducatrice au service de garde. Un enfant qui va être plus calme éventuellement dans le bus. D'accord? Donc, je vais contribuer à sa capacité d'adaptation au milieu scolaire. OK? L'autre chose aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la diminution de la qualité du français actuellement. Puis Jean-François Robert, j'essaye de mettre en place différentes stratégies pour pouvoir nous sensibiliser, nous mobiliser par rapport à tout ça. Mais en bout de ligne, on sait, il y a des études qui ont démontré que quand un enfant est sur une tablette beaucoup trop tôt dans son enfance, eh bien, il perd jusqu'à 40% de l'accessibilité aux mots. ce qui fait en sorte que l'enfant a de plus en plus de difficultés à s'exprimer d'un point de vue verbomoteur. Or, Dieu sait si le verbomoteur est un des axes principaux de l'évaluation de nos enfants à l'école maternelle, à l'école primaire et à l'école secondaire, voire plus tard. Donc, si l'enfant est trop souvent sur une tablette, ben, veut pas, ça va faire en sorte que le jeune va avoir de plus en plus de difficultés à réussir à l'école. Donc, si je lui dis non, je contribue à la persévérance scolaire et je contribue à la qualité de son français. La même chose pour les plus grands avec le chatting. Si quand on regarde les échanges de messages qui sont envoyés, il y a continuellement des fautes d'orthographe. Ouais. On fait ça vite, on fait ça avec nos pouces. On est parfois sur 2-3 conversations en parallèle. Et quelque part, le cerveau, au lieu d'enregistrer que le mot pomme s'écrit P-O-M-M-E, et si je l'écris continuellement en chattant P-O-M, d'accord ? Oui, bon, c'est vrai que la personne à qui je parle, elle a compris. Mais en même temps, je suis en train d'imprégner mon cerveau que pomme s'écrit en 3 lettres et pas en 5 lettres. Exact. Et c'est là qu'on se retrouve avec de plus en plus de problèmes de français. Et si on prend conscience de ça, on se dit, ben finalement, en limitant le chatting de mon enfant, ben quelque part, je vais l'aider à mieux réussir en français. Je vais l'aider à être plus capable de pouvoir s'exprimer de manière adéquate. Je vais contribuer à le sensibiliser à notre belle culture francophile. Donc, on voit que derrière nos noms, derrière les limitations, d'accord, eh bien, on aide notre jeune à développer de belles ressources. Ce n'est pas juste de la frustration, c'est des belles ressources. Et puis, tu sais quoi? On rentre dans un club select.
Ah oui?
Le club des méchants parents. Le club des parents tortionnaires. Ouais. Mais tu sais, il n'y a aucun enfant qui aime ça, dire que son parent lui met des limites. Souvent, les enfants, ils ont l'impression que leur parent est le seul qui met des limites. C'est les pires parents du monde. Ouais. D'ailleurs, je vais donner une conférence incessamment sous peu dans le centre de service scolaire sur cette thématique-là. Donc, ce sera une conférence qui va se donner dans le coin de Lévis. Donc, si ça intéresse des gens, donc il faut que leur enfant fréquente les écoles du centre de service scolaire pour pouvoir y assister. Ils vont recevoir de l'information très, très prochainement. Mais toujours est-il que si je sais comme parent que les noms que je vais donner à mon enfant, ça va l'aider à se construire, ben, à ce moment-là, j'ai moins de difficultés à tolérer sa frustration. Puis je vais l'aider à gérer sa frustration d'une manière adéquate. Parce que si mon enfant, quand il frustre, il frappe ou il envoie un objet en l'air, ben, c'est une mauvaise gestion de la frustration. Donc, si je peux l'accompagner dans sa gestion de la frustration, mais je l'aide à être capable de gérer sa colère autrement qu'en déchargeant par des sacres, par des gestes ou par des objets qui seraient éventuellement lancés.
Faut leur montrer à accepter un non, parce que sinon, ça fait des conjointes qui boudent.
Mais oui, mais quelque part, ta conjointe, si tu dis non à quelque chose et qu'elle boude, c'est pas grave, elle est en train de gérer sa frustration et elle a le droit, d'accord, quelque part. Le tout, c'est qu'elle reste pas bloquée, que ce soit son enfant ou son partenaire de vie, que la personne ne reste pas bloquée dans sa frustration, puis c'est de l'aider en fait à ressortir, c'est de refaire un lien, c'est ça. Mais tu sais, nos enfants, ils vont avoir plus facile à se détacher des écrans si on passe du temps avec eux, si on va voir un musée. Ouais. Tu sais, je viens d'aller en Alberta avec mon garçon, il m'a accompagné, et puis la première chose qu'il m'a demandé quand on était dans les différentes villes de l'Alberta, puis après quand on est repassé par Ottawa, c'est d'aller dans des musées de la science. Donc mon fils, il trippe. Quand on va à Québec, on y va une ou deux fois par année, mais au moins une fois par année, on va au musée de la civilisation. Mon fils, qui a 13 ans, il trippe à aller dans les musées avec son père et aller voir, justement, découvrir un paquet de choses. Donc, si je passe du temps avec mon garçon, si j'avais une fille, ce serait ma fille, ça aurait pu être ma belle-fille ou mon beau-fils, mais toujours est-il, si je passe du temps avec eux, ben, il y a moins de besoin d'être sur la tablette. Mais parfois, le parent, il a une journée tellement dure, tellement demandante, il arrive à bout de ressources quand il est à la maison. Et c'est vrai que la tablette devient la gardienne de la famille. Et je peux comprendre que papa et maman, parfois, ils cèdent. Mais en même temps, à court terme, ça nous solutionne la vie. Mais à moyen et à long terme, ça la complique vachement.
Exact. C'est toujours un plaisir de passer quelques minutes avec toi, Joël Mauzé, puis je constate à chaque fois qu'on n'en a jamais assez de temps pour se jaser. Peut-être qu'un jour, on parlera comme un 10 heures en ligne à t'écouter. C'est toujours très intéressant. Joël Mauzé, docteur en neurosciences, on peut aller sur ton site joelmauzé.com. On peut avoir accès bon, à tes interventions, les conférences, les formations, puis tes livres ainsi que tes parutions dans les médias. Puis sinon, on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook. Et autres, là. Ça a été un plaisir de discuter avec toi, Joël.
C'est très partagé, Yannick. Merci beaucoup.
Un bon vendredi soir à toi.
À toi aussi.
Bye-bye.
Marceau, le soir. Pour bien recevoir à Pâques, ne vous cassez pas le coco. Passez chez Accommodation Chaloux. Demandez conseil pour des accords bière et chocolat. Passez chez Chaloux, Beauport, Saint-Émile et au Grand Marché de Québec.
Autrefois, l'homme devait chasser sa proie pour se nourrir.
Aujourd'hui, t'as plus besoin de chasser le poulet, de frapper des pierres pour faire du feu. Maintenant, tu peux rester chez vous, commander au frito-loretteville.ca et déguster un délicieux repas de poulet frit bien moins gras que celui de tes ancêtres. Frito à Loretteville.
Les camions RAM sont arrivés chez Capital Chrysler, le fameux pick-up RAM à partir de seulement 49 995 Disponible pour livraison immédiate. Taux de financement à partir de 1,99%. CapitalChrysler.com. Rue Marais, ouvert le samedi.
Notre station Boulevard 102.1, qui porte les lettres d'appel CFL-FM et diffuse sur la fréquence 102.1 FM, procède actuellement à des tests de mise en onde à partir de son nouveau site d'émetteur situé au Mont-Bélair. Si vous éprouvez du brouillage en lien avec notre signal, nous vous invitons à signaler l'endroit problématique en nous laissant votre adresse ou code postal à l'adresse signal@commercialblvd.fm ou à communiquer avec nous au 418-529-1021, poste 8444. Merci de votre collaboration. Un message de Boulevard 102.1, une propriété Leclerc Communication.
Les sensations fortes sont à portée de main. La gamme Ski-Doo 2024 est maintenant disponible chez Dion Sport Saint-Raymond. Et tous les modèles sont maintenant sur la plateforme REV Gen 5. De plus, pour un temps limité, précommandez l'un des modèles 2024 sélectionnés et obtenez 2 ans de protection. Ou 750 $ de remise en pièces, accessoires ou vêtements. C'est toujours tripant avec les modèles Ski-Doo 2024. Précommandez le vôtre chez Dion Sport Saint-Raymond. Et soyez garantis de le recevoir avant le début de l'hiver. Parce que chez nous, c'est Ski-Doo.
Imaginez pouvoir côtoyer des gens d'ici et d'ailleurs et vivre l'effervescence du Vieux-Québec dans le cadre de votre travail. C'est votre chance. Les hôtels Champlain et Atypique sont à la recherche de personnel de réception à temps plein et temps partiel. Vous êtes bilingue, dynamique et vous aimez profondément les gens? Joignez-vous à l'équipe des hôtels Champlain et Atypique, une propriété de Leclerc Groupe Hôtelier. Postulez au carrière.fm.
À tous les gourmands de Québec, le marché Carrier Sainte-Foy vous invite à son événement de dégustation ce samedi 25 mars de 9h à 15h. Au menu, rencontre avec les chefs et dégustation des nouveaux prêts à manger haut de gamme, pâtisserie et confiserie Le District Gourmet. De la protéine à l'accompagnement apprêté, il suffit de réchauffer, ouvrir et servir. Pour l'occasion, ce samedi et dimanche, obtenez 10% de rabais sur toute la gamme de prêts à manger Le District Gourmet, offerte en exclusivité au marché Carrier Sainte-Foy. Bonne découverte!
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est tout pour nous en ce vendredi soir. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Mathieu s'en vient dans les prochaines minutes. Le Baram 7h qui sera là dans les prochaines minutes. Donc c'est à ne pas manquer. Toujours excellent. J'ai le plaisir d'écouter ça chaque soir dans ma voiture. Actuellement sur Québec, on frôle les quoi? Les 1, 2 degrés? Ouais, ça ressemble à ça. Pour ce soir, cette nuit, c'est des nuages, un maximum de 0 degré. Dimanche, ce sera de la neige intermittente ou encore de la pluie, maximum de plus 3 degrés. Lundi, nuageux avec 30% de probabilité d'averse de neige ou de pluie, maximum de plus 3. Mardi à plus long terme. Puis je termine là, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 6. Ça a été un plaisir. On se retrouve dès lundi à 11h30 pour ce qui est de Marceau le midi. Sinon, ben Marceau le soir, c'est à partir de 18h du lundi jusqu'au vendredi. Bye bye, merci.
Marceau, le soir.
Offre incroyable chez Océanique. Jusqu'au 30 mars, obtenez 35 % de rabais sur le nettoyage des conduits de ventilation résidentiels. Demandez votre soumission océaniquenettoyage.com.
Chez Toyota, nous misons sur la qualité et la fiabilité depuis toujours. Parce que qui dit hiver dit neige, pluie, verglas en une fin de semaine. C'est l'heure Toyota. Découvrez le polyvalent RAV4 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca. Chez Toyota, nous misons sur la qualité et la performance. Parce que même si tous les chemins mènent à Rome, ben c'est peut-être pas là que t'as le goût d'aller. C'est l'heure Toyota. Découvrez le nouveau et robuste Tacoma 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Chez Cora, pendant le Festival des cassolettes, ça va être dur de choisir entre nos 5 nouvelles cassolettes. Parce qu'il y a, entre autres, la cassolette grande bouffe et son surprenant goût de burger, la cassolette style hot chicken, un classique réconfortant, et la délectable cassolette halloumi et chorizo. Avec ces nouvelles cassolettes de Cora, ça va être dur de choisir, mais que cela ne tienne.
Offre valable jusqu'au 30 avril dans les salles à manger pour emporter et à la livraison. Chez Cora, moi je déjeune avec le Festival des cassolettes.
Venez voir le plus grand projet de condo locatif à Québec. Opal, par quartier mosaïque, offrant piscine intérieure, gym et salle de yoga, golf virtuel, grand balcon, service à proximité, une fenestration abondante donnant sur le boisé. Opal condo locatif par quartier mosaïque, votre nouveau beat de vie.
102.1
Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock.
Linkin Park, Lost.
Votez pour les tunes. L'application Boulevard 102.1, un incontournable.
Montre que t'es pas un dégonflé et deviens installateur de pneus dans l'une des 5 succursales du groupe Desharnais. On va te faire une offre juste pour toi. Travailler chez Desharnais, c'est juste parfait. Avec ou sans expérience, postule en ligne sur desharnais.ca. Montre que ta batterie est pas à terre et deviens valet dans l'une des succursales de Desharnais Pneus et Mécaniques. Avec ou sans expérience, on va te faire une offre juste pour toi. Travailler chez Desharnais, c'est juste parfait. Postule en ligne sur desharnais.ca.
Les condos alloués du quartier Air Extra sont spacieux, lumineux et extra tranquilles. Et ce, même s'ils sont situés près de Laurier-Québec et du CHUL. Ces unités de grande superficie offrent toutes les commodités pour un bien-être inégalé. Demandez une visite au immeubleroussin.com.
C'est l'événement Snowcheck de Polaris chez Pro-Performance. Jusqu'au 29 mars, réservez et personnalisez votre motoneige Polaris 2024 et obtenez jusqu'à 3 ans de garantie Polaris. Garantie d'expédition d'ici le 30 novembre ou recevez 1500 $ de rabais. Quantité limitée. Properformance.ca. Bois-Châtel et Saint-Raymond.
C'est le printemps. Il fait beau. Profitez des belles journées sans vous préoccuper du souper grâce à Bouffe et compagnie. De délicieux repas prêts à savourer en moins de 2. Choisissez parmi une multitude d'options de repas au format qui vous convient. Menu renouvelé chaque semaine. Bouffe-et-compagnie.com.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
C'est l'heure d'aller coucher les enfants.
Coucher les enfants.
Le bonhomme débarque avec sa musique du diable.
This is the Prince of Darkness.
Voici le bonhomme 7 heures, Matt Margotte.
J'ai toujours l'impression de débarquer vêtu d'une cape, hein, tel Dracula, pour vous faire peur hein, ce vendredi soir pour le bonhomme 7 heures. Mais non, ce n'est que moi, Mathieu Marcotte, le gars le moins intimidant de la station, mais qui adore la musique et qui adore vous présenter les 7 plus grosses tunes de la semaine dans le 7 de 7. Donc, le bonhomme 7 heures, une heure de musique. Certains diront la meilleure heure de musique au monde. Et oui, c'était le titre d'une émission de Denis Gravel qu'on a volé parce qu'il n'y a plus d'émission de Denis Gravel qui s'appelle « La meilleure heure de musique au monde ». Dans les prochaines minutes, on aura droit aux positions 5 à 7 et on part avec la 7e place. C'est Metallica. Évidemment, il y a un nouvel album qui s'en vient, l'album 72 Seasons, c'est en avril. Et Lux Aeterna est le premier extrait, numéro 7, cette semaine.
Le 7 de 7, nos 7 plus grosses tunes de l'antenne. Numéro 7. We'll be right back. 7-2-7.
Boulevard 102-1.
Numéro 6.
Sept meilleures chansons selon vos votes au BLVD.fm.
Numéro 5.
I took a walk back then. I had a moment thinking how it's been between you and me, my dear. And we can make it for another year, I guess. So maybe I don't care. I wrote it in my diary, and all my word is true. I even tore out all the pages about you. And I'm passing by.
7 de 7, les chansons les plus performantes de la semaine. Numéro 4, le bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures. Voici Matt Marcotte.
Et en sixième position, on retrouvait Linkin Park avec Lost. D'ailleurs, demain, dans le volume à planche, on va souligner le 20e anniversaire officiellement de l'album Meteora. Oui, 20 ans pour l'album de Linkin Park. On souligne ça avec la sortie d'un coffret spécial d'une édition 20e anniversaire. Ça sort le 7 avril prochain. Et Linkin Park Lost, bien sûr, ça fait partie de ce coffret-là, de ce matériel inédit-là qu'on n'avait jamais entendu. C'est une toune perdue de l'époque des sessions de Meteora et qui est en 6e place du 7 de 7. Donc, ça monte au palmarès. En 5e place, White Reaper avec Pages. On a appris cette semaine que White Reaper sera de passage au Festival d'été de Québec en première partie de Foo Fighters. Bien hâte de voir White Reaper en show parce que ça sonne un peu comme du bon vieux Weezer, du bon vieil alternatif des années 90. Donc, une formation qu'on aime beaucoup. Il y a un groupe qui a sorti aujourd'hui un nouvel album, 8e album studio en carrière pour la formation Fall Out Boy. On va en reparler un petit peu plus tard de cet album qui s'appelle So Much for Stardust. Mais pour l'instant, le premier single très très fort sur nos ondes, Love from the Other Side, numéro 4. Would you trade the past?